Je suis persuadée que ce cœur de ma foi que j'appelle certitude et blessure ne peut pas supporter des analyses systématiques selon les règles d'un cartésianisme rigoureux. Vous voyez, qu'on ne peut pas disséquer. Ceci, c'est ce que je garde de ma culture asiatique. Et la certitude de blessure est à vivre et à accueillir comme un don de la vie. Vous voyez, tout ça, ça reste encore très bouddhiste. C'est à accueillir et à vivre dans le silence. C'est bien, mais il faut quand même faire un compte rendu. C'est ce que je me suis rendu compte quand j'étais au Cambodge, grâce à la fierté de ses frères et sœurs dans le sang et dans la foi. Alors, j'ai pris conscience que le christianisme véhiculé au Cambodge est un christianisme un peu trop occidentalisé, qui permet que les Khmers y rentrent difficilement. Depuis, j'ai fait beaucoup de travail. Depuis, j'étais au Cambodge en 2003. J'ai essayé d'être claire dans ce mot certitude blessure. Alors ce soir, je vais partager avec vous trois instants de ce mot certitude blessure, qui est le centre même de ma foi chrétienne. J'ai dit trois instants, trois mouvements dans ma vie. J'ai dit les mouvements parce que ces instants-là ne sont pas statiques. Ce sont des forces, ce sont comme des forces de ce qu'appelle, j'appelle ça, les forces de décentrement. Ça vous fait sortir de vous-même. Ça vous envoie toujours ailleurs. Ces forces de décentrement, je veux les décomposer en trois. Le premier décentrement que je voudrais partager avec vous, ce sera le dialogue intra-religieux. Premier décentrement, de certitude blessure. Deuxième décentrement est la conversion comme chemin de reconstruction identitaire. La conversion comme chemin de reconstruction identitaire. Et le troisième décentrement, ce sera la route d'Emmaüs. La route d'Emmaüs où la bouddhiste accompagne la chrétienne. C'est que loin, pour moi, loin d'avoir supprimé tout ce que mes acquis du bouddhiste, ça se fait comme les interrogations de la bouddhiste vont me propulser encore plus loin vers le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Dans ces trois décentrements, je vais essayer de les détailler. Si c'est pas clair, si c'est trop obscur, ben, vous pouvez poser des questions après. Je vous ai dit que c'est très difficile d'analyser ça selon le cartésianisme rigoureux. Extrêmement difficile. Alors, premier décentrement, le dialogue intra-religieux. C'est-à-dire que ce que j'appelle la certitude de blessure va donc amener sur un chemin de dialogue, et je dis dialogue intra et non pas inter. Remarquez, le mot intra n'est pas de moi. C'est un mot qui a été inventé par un prêtre qui s'appelle Panika. Voilà, vous connaissez Panika qui travaille beaucoup. Panika, il avait, son père était hindou et sa mère chrétienne. Et qu'est-ce que veut dire intra-religieux? Cela veut dire quand deux cultures, deux traditions religieuses se rencontrent dans une même personne. Vous voyez? Alors, je vais donc vous amener sur ce dialogue intra-religieux. Pour dire ça, il faut vous dire qu'au début de mon baptême, j'ai reçu le sacrement du baptême en le mois d'avril 1983. Au début de mon baptême, j'ai été, tout de suite après, quelques mois après le baptême, j'ai été très désarçonné par le fait de retrouver dans le christianisme ce que je reprochais au bouddhisme. Il faut le faire. Alors, qu'est-ce que je retrouve dans le christianisme, ce que je reprochais au bouddhisme? C'est le fatalisme et le moralisme. Ça m'avait complètement désarçonné. Par exemple, on confond, enfin, je ne vois pas des gens qui ont dit que ben, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui nous punit, c'est comme ça. Bon, quelle est la différence entre ce que nous pensons que ça a été écrit quelque part, comme ça, par Dieu, écrit quelque part, quelle est la différence de cette conception avec le concept bouddhiste du karma? Qui pense que le karma, c'est un mot bouddhiste, un mot sanskrit, qui veut dire l'acte et ses conséquences. C'est-à-dire ce qui vous arrive, il y a toujours une cause. Vous êtes toujours responsable de ce qui vous arrive actuellement, en bien ou en mal. Donc il y a un fatalisme, une fatalité là-dedans. Alors j'ai reproché ça, et aussi ce qui m'a aussi déconcerté, c'est le moralisme. Vous voyez, moi je vois la foi chrétienne comme une aventure. S'il fallait faire du bien, les bouddhistes aussi ils savent faire du bien. Il n'y a pas le chrétien. Il n'y a pas que des chrétiens qui savent faire du bien. Alors, au début de ma vie dans l'Église catholique de France, j'avais l'impression de déjà vu, déjà vécu, ce que j'avais reproché au bouddhisme. Et c'est ce déjà vu, c'est déjà vécu qui va m'amener au fil de temps dans ce dialogue intra-religieux. Voilà, je me disais que s'il y avait rencontre dans deux traditions, s'il y avait rencontre entre ce qui est mauvais, la fatalité, le fatalisme, le moralisme, il devrait avoir aussi rencontre dans ce qui est bien. Vous voyez? Donc, alors, rencontre, il devrait avoir donc une rencontre passionnante entre ce que j'appelle les discours fondateurs des deux traditions. J'ai donc laissé, vous voyez, depuis plus de 20 ans, dans l'Église catholique, j'ai donc laissé les quatre nobles vérités, c'est-à-dire le discours fondateur du bouddhisme, interroger ma foi chrétienne. Et le contraire se fait aussi, c'est-à-dire que l'évangile va interroger aussi les discours fondateurs du bouddhisme. Bon, quand je dis le temps nous est pas assez long pour que je vous détaille ce discours fondateur, mais ce qu'on appelle le discours fondateur dans le bouddhisme, c'est les quatre nobles vérités. Alors la première vérité, je vous résume, parce que Bouddha s'est présenté comme un médecin qui voudrait guérir l'humanité de ce qu'il appelle l'insatisfaction existentielle. Bouddha est un médecin qui veut nous guérir de notre insatisfaction existentielle. Et comme un médecin qui, si on veut guérir quelqu'un, on doit faire le constat de la maladie. La première non-vérité, c'est le constat que Bouddha va faire de la maladie de l'homme. Et la maladie de l'homme, c'est qu'il souffre. Et pourquoi il souffre? C'est qu'il y a de l'impermanence. C'est la première de l'enseignement du bouddhisme, c'est l'impermanence. Ça veut dire que ici-bas, dans cette réalité-là, rien n'est stable, rien n'est permanent. Tout est appelé à changer. Et c'est parce que nous voulons être quelque chose de stable, c'est pour cela que nous souffrons. Vous voyez, c'est ça. Donc il y a une impermanence, et puis il faut toujours faire attention à des illusions possibles, des illusions que nous construisons nous-mêmes. Et ce sont ces illusions-là qui nous font souffrir. C'est ça le discours fondateur du bouddhisme. Donc j'ai laissé ce discours interroger ma foi chrétienne. Alors pour vous expliquer comment ça se passe, c'est que au début, quand je suis arrivée dans la communauté catholique, on se laisse, les nouveaux arrivés, on se laisse plus ou moins accaparer par la communauté elle-même, par la communauté qui nous accueille. C'est parce qu'on se sent flatté par l'accueil, parce que on se laisse coller des étiquettes. Vous savez, les gens sont contents de montrer les convertis. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont contents de montrer les convertis. Les bouddhistes aussi. S'ils sont des convertis, ils sont contents de montrer leurs convertis. Donc, du coup, on colle à cette étiquette-là. Et on va arriver à voir sa conversion que par le miroir fabriqué par la communauté. C'est-à-dire que, au début, j'essayais de dire ma foi en Jésus-Christ avec les mots que la communauté me donne. Mais ces mots, au fil du temps, sonnent malheureusement creux pour moi parce que je ne les habite pas. Et ils ne sont pas intégrés dans ma vie. Donc je vivais donc au début de mon baptême comme il y a une déconnexion entre ma foi chrétienne, entre ce que je proclame, et ma vie de tous les jours. Et du coup, je vivais avec cette image donnée, fabriquée par la communauté, dont je ne me reconnais plus. Et quelle est cette image, la première image que la communauté nous renvoie, à nous les convertis, disons entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit la conversion comme un changement complet. On pense que la personne avant, elle était mauvaise. Et qu'elle son que voit-il, elle est devenue une personne bien. Je me croyais bien, devenue quelqu'un de bien. Même dans la tradition bouddhique, on voit la conversion comme ça. C'est ce qu'on appelle le retournement radical des philosophes. C'est qu'on a tourné, on a quitté, on a mis une nouvelle veste. D'accord. Voilà. Donc je me regardais donc dans ce miroir. J'allais dire que je voyais ma conversion au christianisme dans le bon sens de la compréhension courante, quoi. Conversion comme changement de tradition, comme on est devenu quelqu'un de bien. C'est une conversion qui rassure la communauté qui accueille du bien fondé de ses croyances, de ses rites. C'est pour ça qu'on est fier de montrer des convertis. Parce que ça nous rassure, nous qui, voilà. Mais j'ai vécu tout cela sous le regard moqueur et critique de la bouddhiste qui ne m'a pas quitté. J'ai vécu tout cela sous son regard moqueur et critique, et c'est justement ce regard moqueur et critique qui est en moi, qui m'empêche de basculer complètement dans ce que Xavier Thévenot, vous connaissez Xavier Thévenot, ce moraliste qui nous a quittés l'année dernière, de basculer dans cette image que Xavier Thévenot appelle la conversion idole. Il y a la conversion idole. Qu'est-ce que c'est la conversion idole? Alors, je vous lis la définition de Xavier Thévenot. L'idole, on le sait, est comme un miroir des rêves de toute puissance pseudo-divine de l'homme, miroir fabriqué par l'homme lui-même dans son aveuglement. Alors, l'image idole que j'ai fabriquée, c'est que je croyais que j'étais dans un état permanent de grâce après ma conversion. Je croyais que cette grâce était ma propriété privée. Quelque chose qui m'a été donné. Mais non, la grâce ne nous appartient pas. La grâce ne nous appartient pas. Et ce qui m'avait réveillé, c'est que dans cette crise-là, ma tradition d'origine, la bouddhiste, va me réveiller. Elle va me dire, est-ce que tu n'es pas en train de vivre une illusion? Est-ce que le Dieu que tu es en train de confesser n'est pas un Dieu fabriqué par toi pour tes besoins? Oui. Et c'est ce questionnement-là, cette mise en garde contre l'illusion possible qui permet à la chrétienne que je suis devenue de passer par ce qu'on appelle la purification de l'illusion religieuse. Ma foi est purifiée par cette question. C'est-à-dire que la purification de l'illusion religieuse va me propulser dans une autre compréhension de la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Peut-être qu'on va rentrer comme ça dans le deuxième décentrement qui va me propulser vers une autre définition de la conversion. Alors j'ai compris, alors, avec toutes ces difficultés, parce qu'il y a le choc culturel aussi, et il y a certaines choses que je trouve dans l'Église catholique qui n'étaient pas évidentes pour moi, venues d'autre part. Donc, dans ce chemin en tant que disciple de Jésus-Christ, je dois donc essayer de voir, d'essayer de faire l'unité dans mon histoire personnelle. Si je comprends la conversion comme un changement net, comme on tourne le dos à quelque chose, il va avoir coupure dans mon histoire personnelle. Vous voyez? Et s'il y a coupure dans notre histoire personnelle, ça ne peut pas aller. Un chemin spirituel ne peut pas débuter par une coupure. Donc je vais dire que ma conversion, si elle n'était que cette coupure, elle ne serait qu'une parenthèse de mon histoire. Si elle n'était que ce changement de tradition, ce choix d'une autre religion, ou le passage d'une voie à une autre, de la voie bouddhique à la voie chrétienne, elle ne serait qu'une petite parenthèse, cette conversion-là. Et si décisive soit-elle, cette conversion-là ne serait qu'un moment furtif, qu'un instant illusoire dans notre construction personnelle. Donc, qu'est-ce que vraiment une conversion pour moi? Je vais donc voir la conversion comme comme un itinéraire, un parcours à la recherche d'une autre identité, d'une identité ouverte. Donc, je vais voir ma conversion non pas comme un état de grâce perpétuelle, mais ma conversion comme un effort quotidien de se construire et de se reconstruire. Je vais voir ma conversion comme une réponse à une seule question du Seigneur Jésus-Christ, que je trouve que c'est très important, quand il dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Tant que je n'ai pas confessé personnellement, pas mes mots personnels, pas mon histoire personnelle, qui est Jésus-Christ pour moi, ma conversion ne sera jamais un chemin de reconstruction identitaire. Savoir est-ce que je passe, si j'arrive à vous amener sur ce point-là. C'est-à-dire qu'à arriver à répondre, non pas avec les mots que notre Église, que mon Église m'apprend, mais avec des mots à moi. Et ça nous renvoie à chaque histoire personnelle. Répondre à cette question du Seigneur avec notre vie. Donc, dans cette compréhension de ma conversion, ça va me faire comprendre quand dans l'Évangile nous trouvons, quand Jésus dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Vous voyez? Et je vois ma conversion comme toujours renouvelée. C'est un retour vers mon passé, une interrogation vers mon passé, et toujours renouvelée comme une spirale ouverte. On ne peut pas, ma conversion ne c'est pas une ligne droite sans retour. Toute conversion est l'interrogation du passé. Assumer le passé, revenir sur le passé, comprendre le passé et non pas rester sur le passé, l'assumer et l'offrir au Seigneur, ce qui nous ouvre un chemin vers un ailleurs. Parce que, d'après pour moi, quoi que je fasse, je n'arrive jamais à répondre totalement à cette question du Seigneur et vous qui dites-vous que je suis. Parce que notre vie avance, change. Notre vie ne piétine pas. Vous êtes d'accord? Moi maintenant j'ai 60 ans, je ne raisonne pas comme quand j'avais 50 ans. Vous voyez? C'est la loi de l'impermanence du bouddhisme. Nous changeons. Et dans ce changement de la vie, c'est la vie qui nous appelle à changer. Comment je vais dire ma foi dans ce changement-là? Ça fait comme si, à chaque changement, j'approche un petit peu plus du visage du Seigneur. Alors, pour vous donner un exemple, je peux dire, bon, moi, je suis myope. De temps en temps, on va voir l'ophtalmologue pour changer des verres, pour voir mieux, parce que la myopie, elle change. Alors, l'interrogation de la bouddhiste envers moi, la chrétienne que je suis devenue, c'est comme ça. C'est comme si elle m'oblige à changer les verres, à dire de plus en plus finement qui est Jésus-Christ. De ne pas se contenter que des mots faciles, de ne pas se contenter de répéter ce qu'on me dit de répéter. C'est un défi profond dans cette voie de la foi, vers, oui, vers le Dieu de Jésus-Christ. Donc je dois apprendre à chaque pas, à chaque moment de ma vie, à répondre à cette question. Et je veux donc dire que la certitude de blessure est le fruit de l'interrogation de la tradition d'origine sur ma foi chrétienne. Ce n'est pas, si vous voulez, du relativisme absolu. C'est pas comme on la mode maintenant, on dit toutes les religions se valent. Tout le monde veut faire du bien. Non, ce n'est pas du relativisme absolu. Mais c'est une certitude, mais une certitude interrogée. On se laisse interroger par l'autre. Par exemple, si moi, Claire Lee, je dis que Dieu est amour. Saint Jean nous le dit. C'est écrit dans l'Évangile. Mais moi, Claire Lee, quand je dis ce mot que Dieu est amour, je dois me rappeler tout de suite, que mes mots à moi, ne peuvent pas épuiser toute la réalité de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est immensément plus grand que ça. C'est-à-dire que si je me contente d'enfermer le Dieu de Jésus-Christ dans un de mes concepts, je vais faire un Dieu à ma taille. D'accord? Et c'est ainsi que je vais défigurer Dieu jusqu'à ce que les autres ne peuvent plus le reconnaître. Ça vient de cette interrogation du bouddhisme, de la bouddhiste envers la chrétienne où je suis aujourd'hui. Donc je dois faire attention à chaque mot en disant que bien sûr je n'ai pas d'autre voie pour connaître Dieu que l'amour. Je n'ai pas d'autre mot. C'est le mot qui correspond le plus. Mais je n'enferme pas Dieu dans mes mots à moi. En sachant très bien qu'il est beaucoup plus grand que ça. Dieu est toujours plus grand que mon cœur. Le Dieu de Jésus-Christ est toujours plus grand que ce que je pourrais dire par mes mots à moi. Donc, faire très attention à ne pas instrumentaliser Dieu. Et ce dialogue permanent, vous voyez, qui se passe en moi, c'est intra-religieux, n'est pas chose facile à vivre au sein de l'Église. C'est pas une chose facile, car beaucoup de chrétiens, moi de même, on a toujours la tentation de vouloir toujours enseigner, clarifier les choses. On veut tout le temps enseigner, donc souvent on a des rapports un peu de supériorité envers les autres. Et ça, c'est très, très difficile. Alors, cette interrogation donc va m'appeler à faire attention et va me renvoyer sur le troisième décentrement qui est la route d'Emmaüs. La route d'Emmaüs, c'est-à-dire que cette certitude de blessure est pour moi quelque chose à l'image de... Alors, je vais vous donner une image, un peu à l'image du bonheur dans le bouddhisme. Et je vous donne l'image du bonheur. Comment les bouddhistes voient le bonheur? Bouddha Sakyamuni va dire que le bonheur peut être illusoire. Pour ça, il va raconter une histoire. Il a dit que le bonheur, supposons que vous allez vous promener en montagne. Vous allez vous promener en montagne et vous avez oublié votre bouteille d'eau. Il fait très chaud, vous avez soif. Très soif. Et tout d'un coup, vous trouvez une source. Vous allez boire à la source. Vous mettez vos mains et vous prenez l'eau de la source. Mais quel bonheur! Vous avez soif, vous avez trouvé l'eau. Donc c'est bien le bonheur. Mais essayez de garder cette eau dans vos doigts, dans vos mains. Vous allez voir que vous ne pouvez pas la garder. Vous allez voir que ce que vous appelez le bonheur, quand vous fermez vos mains, ce bonheur coule et devient de la boue sous vos yeux. Ça, c'est l'image du Bouddha sur le bonheur. Moi, je dis que pour moi, quand je dis certitude de blessure, c'est à l'image, c'est-à-dire que la certitude dans ma foi, c'est comme l'eau de source. Je reçois du Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai à la source. Je ne fais que recevoir. Et qu'est-ce que je fais? Je mets mes mains ouvertes pour recevoir cette grâce. Mais comme toute femme, on a toujours envie de garder. Quand on trouve que c'est bien, on veut garder. Mais dès que je ferme mes mains, la grâce passe ailleurs. Parce que cette grâce-là n'est pas pour garder. C'est comme les mannes dans le désert. Vous ne pouvez pas thésauriser, mettre à la caisse d'épargne. C'est quelque chose qui nous demande. La certitude bonheur, c'est la grâce. La certitude blessure, c'est la grâce du Seigneur qui nous demande de mettre toujours les mains ouvertes pour recevoir et pour offrir à notre voisin sans vraiment essayer de garder pour nous. Telle est ma foi chrétienne. Ta foi, ben, cette... C'est un bonheur de dire que le Seigneur est là, mais je reçois. Ce n'est pas grâce à mon analyse ou à tout ce que je peux avoir en moi, mes mots, mes études théologiques ou quoi que ce soit, que j'arrive à fermer mes mains. Non. C'est quelque chose qui vient du Seigneur et ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Je dois toujours offrir et partager. Alors, lors de mes retours au Cambodge, je vis donc cette certitude comme si la bouddhiste vient m'accompagner, marcher avec moi, pour m'interroger sur la foi chrétienne. Et la bouddhiste m'interroge sur tout ce qui est important dans ma vie. Il y a toujours conversation, dialogue entre les deux. Mais ce que la chrétienne, elle vit, et qu'elle ne peut pas dire à la bouddhiste, elle ne peut pas dire, elle n'est pas... Je vous explique pourquoi je ne peux pas dire à la bouddhiste. Mais ce que la chrétienne, elle vit de plus profond en elle-même, c'est la présence d'un autre. C'est comme le disciple d'Emmaüs, quelqu'un qui marche avec. Je suis sûre que le Seigneur marche avec. Dès qu'il y a une rencontre entre avec la bouddhiste. Mais la bouddhiste, si je vais lui dire quoi que ce soit avec mes mots, elles vont me dire que je suis en train de fabriquer une idole. Voyez? Parce que cela vient de la tradition bouddhique qui pense que ce qui est comme le nirvana, ce qui est vraiment que l'homme est appelé, se trouve au-delà de tous nos mots. Dès que nous mettons nos mots dedans, nous tirons ce qui est au-delà dans notre monde de changement, de l'impermanence. Donc la bouddhiste, vaut mieux communiquer avec elle par le silence. Par le silence parce qu'on n'a pas de mots pour dire ce qui est au-delà de tout entendement. Si on explique trop, c'est qu'on est en train de faire de notre Dieu un objet. Ça, il faut se méfier avec les bouddhistes. Donc je dis que la bouddhiste va donc m'accompagner sur la route d'Emmaüs, cette route de ma vie. Sur cette route, ben, je vais faire souvent l'expérience d'un déroutement psychologique, l'expérience d'une déception déstabilisante des fois. Surtout quand je retourne dans mon pays, quand je vais voir les charniers là où mon mari était fusillé. Donc on fait ces expériences-là. Et la bouddhiste, elle est toujours prête à m'expliquer des choses, selon le bouddhisme. Mais en l'écoutant, bizarrement, c'est que la catholique chrétienne que je suis devenue prend conscience de la présence d'un autre. C'est-à-dire que tout se passe chaque fois quand je suis confrontée à des problèmes essentiels de la vie, tels que le pardon, par exemple. Je prends conscience avec l'interrogation de la bouddhiste, prendre conscience de cette grâce, de ce qui vient du Seigneur. Par exemple, le pardon n'est pas ma propriété. C'est comme le mot indique, c'est pas reçu de don. C'est quelque chose qui est donné. C'est une grâce, le pardon. C'est pas notre propriété. Le pardon est d'abord à recevoir, avant tout, avant d'être donné. Voilà. Et donc, je peux dire qu'à cause de la bouddhiste et grâce à elle, j'évite d'enfermer le Dieu de Jésus-Christ dans mes mots trop humains. J'évite d'enfermer dans mes mots trop humains. Et je ne dis pas que Dieu est ceci ou cela. Parce que dès que je dis que Dieu est père, que ceci, cela, la bouddhiste, elle a dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu n'étais pas en train de l'enfermer? Donc c'est la meilleure façon, parce que quand on donne la définition de Dieu, c'est la meilleure façon de coller nos propres images sur le Dieu qui est le Dieu de tout autre. Et la seule chose que je sais de ce Dieu, c'est pas la vie de Jésus le Nazaréen. La vie et sa parole. Je ne sais rien d'autre. J'ai pas fait l'expérience. J'ai fait l'expérience selon ce que la vie de Jésus-Christ nous dit. Donc je dis bien que c'est la vie et la personnalité de Jésus et non pas les phrases de l'évangile sorties des contextes qui peuvent dire quoi que ce soit, mais c'est toute la vie de Jésus de Nazareth qui peut nous dire qui est ce Dieu qui est son Père et notre Père. Donc, il faut bien retourner tout le temps à l'évangile et éviter d'enfermer le Dieu. Alors, je vais donc terminer par cette phrase de l'évangile. Tout en sachant très bien que nos mots ne peuvent pas épuiser toute la réalité de Dieu. Donc, voilà, dans Jean 1, 18, c'est dit que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Si je peux dire quelque chose, c'est grâce à Jésus le Christ, de ce Dieu. Parce que je suis chrétienne. Alors dans Matthieu, vous voyez aussi, c'est écrit, « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc tout passe par la grâce.